Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Autour de moi aujourd'hui, il y a d'abord Alfred Orange, journaliste RMC qui est là pour tout nous expliquer. Salut Alfred.
Salut Rémi, salut à tous.
Pour tout nous expliquer, pour qu'ensuite on puisse ensemble tous débattre. Vous nous appelez au 3216, on débattra notamment avec Thierry Moreau, journaliste média. Salut Thierry.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
Anne-Sophie Saint-Père est là également, militante associative. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Rémi, bonjour tout le monde.
Et puis Daniel Riolo, journaliste RMC, qui va avoir une très 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 longue journée. On espère qu'elle se terminera très bien avec le PSG ce soir face à Dortmund. Peut-être une place en finale, on verra. Daniel, c'est tout ce qu'on souhaite.
Salut tout le monde, ouais, bah oui évidemment.
Bon, allez, dans un instant, on va parler du chômage en France. On en est à 7,5%, 7,5% de taux de chômage de la population active dans notre pays. La moyenne européenne, elle est à 6,5%. Le plein emploi, c'est 5. Et le plein emploi, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il y a des réflexions en ce moment au ministère du Travail sur ce qu'il faudrait faire pour y arriver à ce fameux plein emploi. Trop de chômeurs, faut-il encore réduire leurs droits? Vous nous appelez au 32-16. À 12h30, des tableaux tagués par des militantes féministes. C'était à Metz hier. Est-ce irresponsable? On vous pose là aussi la question à 13h. La route, nos routes, sommes-nous tous devenus des sauvages au volant? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, le week-end de l'Ascension. Ça y est, ça débute. Il y avait déjà beaucoup de monde. Thierry, tu pourras témoigner tout à l'heure sur les routes autour de la région parisienne. C'est rouge sur l'ensemble des routes de France dans le sens des départs. Faut-il partir à tout prix pour être heureux? À 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Le plan du jour, le plan du gouvernement pour parvenir au plein emploi en France, promesse de campagne, je le disais, d'Emmanuel Macron. Rien n'est encore arrêté, Alfred, mais le ministère du Travail s'active pour mettre en place de nouvelles règles, des règles qui sont censées rentrer en vigueur très vite, hein, ça sera début juillet.
Exactement, et plusieurs pistes sont sur la table. La première serait de baisser la durée d'indemnisation si la conjoncture s'améliore. L'idée, c'est de dire que si le chômage diminue dans le pays, la durée d'indemnisation baisse aussi. Au contraire, si le chômage augmente, cette durée serait revue à la hausse. Le gouvernement y croit, toujours arc-bouté sur son objectif de plein emploi. Tu le disais, Rémi, arriver à 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat. Pour y parvenir, d'autres mesures sont à l'étude, comme durcir l'ouverture des droits. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années pour être indemnisé. Demain, le gouvernement aimerait augmenter cette durée, passer à 8, 9, voire 12 mois travaillés sur les 24 derniers mois pour prétendre au chômage. Si le gouvernement s'y attelle, c'est parce que depuis l'été 2023, le chômage ne baisse plus et a même tendance à remonter légèrement. La courbe est aujourd'hui bloquée autour de 7,5%.
Encore trop de chômeurs. Faut-il encore réduire leurs droits? Vous nous appelez au 32-16. Daniel, est-ce qu'on serre encore la vis?
Moi, je crois que ça fait maintenant plusieurs années que gouvernements de droite ou de gauche qui ont été au pouvoir sont face à un problème de fond qui est le décalage sur le marché du travail entre l'offre et la demande. Mmh. C'est de sans arrêt répéter, il y a énormément d'offres et il y a beaucoup d'emplois non pourvus. On pourrait faire le décalage sur ce que ça, une dégression pardon, sur ce que ça engendre comme secteur en tension, nouvelle expression de ces dernières années qui fait qu'il faille faire venir des travailleurs de l'étranger qu'on va moins payer pour voir ces emplois là. Je reviens en arrière, je referme la parenthèse. Donc on constate évidemment trop d'emplois non pourvus et on constate également, si on est au gouvernement, je le répète, de gauche ou de droite depuis maintenant une vingtaine d'années en France, que en Europe le chômage baisse.
Ouais. On est à 6,5%
en France, alors qu'à un moment on avait le sentiment qu'on pouvait atteindre l'objectif fixé par Macron au moment de son arrivée au pouvoir. Finalement, on n'y arrivera pas. Essayer des choses à répétition sans réellement les essayer, parce que tu tentes une réforme et puis tu la fais pas, puisque là une partie de ce qui est annoncé là avait déjà été annoncé en 2022. À un moment, il va quand même falloir justement faire en sorte d'arrêter ces constats et de tenter quelque chose. Alors on dit que la durée d'indemnisation, ça joue sur la vitesse du retour à l'emploi. Ouais. Bah, fais pas comme ça, Thierry. Et toutes les enquêtes le montrent.
Bah, pas toutes, non.
Alors, bah, si pas toutes, bah, le problème de l'économie, tu sais ce que c'est? C'est que même des experts beaucoup plus qualifiés que nous vont rencontrer des experts beaucoup plus qualifiés que nous qui vont être face à face.
Bien sûr.
Et qui ne trouveront pas de solution.
Bah, tout à l'heure, un économiste, Erwan Tison, sera avec nous tout à l'heure.
Toujours est-il. Pardon, Thierry, pardon. Il y a une chose quand même, c'est que, qu'on le veuille ou non, en France, le chômeur est, on va dire, le côté social est toujours beaucoup plus choyé et mis en avant que dans les autres pays européens.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Tout à fait.
Et que, malgré tout, on ne favorise pas le retour à l'emploi. Ça, c'est vrai aussi. Donc, peut-être que tenter quelque chose qui n'a pas été tenté pour pousser les gens à retourner sur le marché du travail, ça peut être une solution.
Le terme exact que tu viens d'employer, c'est dans l'esprit du gouvernement, c'est plutôt celui-là. Tu disais favoriser le retour à l'emploi, ensuite tu as dit pousser au retour à l'emploi.
Exactement.
Maintenant, là, on se dirige vers plutôt pousser les chômeurs vers le retour à l'emploi, quel qu'il soit, j'allais dire.
Sans parler de ce qui est sous-entendu, qui est de faire des économies, vu que l'état des finances en France est catastrophique, donc on va essayer également de gratter là. On va essayer de tout gratter autour, finalement, de cette situation de chômage en France.
Thierry Moreau, est-ce qu'il faut encore réduire les droits des chômeurs?
Non, je pense qu'on l'a déjà fait par deux fois déjà dans deux réformes. Je rappelle quand même que ce n'est pas un cadeau. Il y a des gens qui ont cotisé toute leur vie, pour qu'à un moment donné, il y ait une béquille qui puisse les aider à un moment où on ne retrouve pas de travail, justement pendant cette période-là. La causalité entre la réduction soit de la durée d'indemnisation, soit du montant des indemnisations vers le plein emploi, bah, il n'a pas été prouvé en tout cas ces dernières, puisque le chômage ne baisse plus et il reprend même. Et il y a un indice très préoccupant, c'est celui des intérimaires. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le recours aux intérimaires baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'achemine sans doute vers une augmentation du chômage d'ici quelques mois. Donc ça veut dire que ce qui a été tenté jusque-là n'a pas fonctionné.
Alors, donc, est-ce qu'il faut tenter autre chose en réduisant la durée d'indemnisation,
cas,
par exemple?
En tout cas,
parce que Thierry, on va dire les choses. On va dire les choses, Thierry. Je te donne la parole. On va dire les choses très clairement. Voilà, ce qui est dans les tuyaux, notamment, rien n'est encore arrêté, on le disait. Mais ce qui serait dans les tuyaux, qui est visé? C'est pas le salarié de 45 ans ou 50 ans, peu importe, qui a travaillé 17 ans dans une entreprise qui se retrouve au chômage.
Bah, il va être touché.
Et qui voilà.
Attends, je termine.
Attends. Mais là, qui est. Non, oui, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de répercussions sur lui, mais celui qui est visé, ceux qui sont visés aujourd'hui, on parle de la durée d'indemnisation, c'est ceux, il y en a, mais je ne dis pas que c'est la majorité, loin de là, mais en tout cas, c'est dans le viseur du gouvernement, c'est ceux qui jouent un peu, qui travaillent 6 mois,
qui se mettent
au chômage 3 mois, qui retravaillent 4 mois, forcément, si tu montes peut-être jusqu'à 12 mois de travail avant d'être indemnisé, de pouvoir être indemnisé, forcément, là, ça va couper l'air sous le pied de ceux qui jouent à ça.
Et ça me semble tout à fait normal.
D'abord, il y a déjà un certain nombre de gens qui le font de moins en moins parce que c'est de moins en moins possible, puisque
absolument,
ça a déjà été renié par les présidents de réforme. Première chose. Deuxième chose, il faut arrêter avec c'est une minorité de gens. Il faut arrêter avec cette idée que le chômage est quelque chose de confortable. Oui, bien sûr, on en connaît, j'en connais dans mon entourage, bien sûr. Mais à un moment, il faut qu'on appuie sur les deux.
Qu'est-ce que t'en sais que c'est une minorité Thierry? Qu'est-ce que t'en sais? Quand on dit une enquête, tu dis l'enquête, elle a rien dit. Tes chiffres, on n'en sait rien.
Est-ce que je peux? Bah, la causalité, en tout cas, on a déjà
fait
deux réformes.
On n'en sait rien.
On a déjà fait deux réformes. Le chômage, est-ce que je peux terminer mon argument?
Vas-y, Thierry, et ensuite Anne-Sophie.
On a déjà fait deux réformes, ça ne fait pas baisser le chômage et le chômage est en train de réaugmenter. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas. On appuie sur le même côté de la balance. Il y a un moment, quand est-ce qu'on va, par exemple, inciter, voire obliger les entreprises à recruter des seniors? Aujourd'hui, il y a un paquet de gens qui ont très envie de travailler, qui ont plus de 55 ans et qui se retrouvent sur le carreau. Alors là, pour le coup,
c'est ça le problème.
Ah ben, je peux te dire que si, quand on dit aux gens il faut travailler plus longtemps parce qu'on vous repousse l'âge de la retraite et qu'à 55 ans on te dit au revoir monsieur, vous êtes trop cher, vous avez trop d'expérience et on vous embauche pas, je peux te dire que oui, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut appuyer sur les deux côtés de la balance. C'est-à-dire, effectivement, peut-être réduire les droits, la facilité la d'acquérir les droits et les, j'ai pas de souci là-dessus. On l'a déjà fait deux fois. Mais permettons aux entreprises d'embaucher des seniors, voire incitons-les, allégeons leurs charges pour que les PME, PMI puissent embaucher plus facilement. Il faut, à un moment, jouer sur plusieurs leviers et pas toujours le même. C'est tout ce que je dis.
Trop de chômeurs, faut-il encore réduire leurs droits? Vous nous appelez au 3216, Anne-Sophie Saint-Père.
Alors, Globalement, les études sont convergent quand même pour montrer que ça aurait pas ou peu d'effet sur le chômage. Et d'ailleurs, en mars 2023, il y a deux notes internes du ministère du Travail qui sont sorties, qui déconseillent d'aller vers ce type de réforme, parce que ça aurait peu d'effet et qu'il faut avant tout évaluer l'effet des mesures qui ont été prises et qui sont tous beaucoup plus restrictives. Et en fait, globalement, ce qu'on risque de faire, c'est avant de faire plus de pauvres, parce qu'il y a plus de gens qui vont sombrer dans la pauvreté. Quel effet? Ça veut dire que c'est des gens qui vont moins consommer, de fait. Donc, ça va pas stimuler l'économie, donc on va moins pouvoir recruter. Et vraiment, taper sur les chômeurs systématiquement, c'est aussi prendre le risque d'aller vers quelque chose, vers une récession. Et il y a tout, aux États-Unis par exemple, on est plutôt sur un plan de relance d'investissement pour pousser à la consommation, et c'est ça qui crée de l'emploi. Et quant aux emplois qui ne seraient pas pourvus, etc., je suis allée regarder, c'est entre 200 et 300 000 emplois, dont à peu près la moitié sont des emplois non durables, donc des CDD de moins de 6 mois, et il y a 2,3 millions de chômeurs. Donc on peut insister là-dessus, mais en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au-delà des barrières de compétences, de géographie et de type de contrat qu'on offre, c'est pas ça qui va absorber le chômage. Ce qui va absorber le chômage, c'est une relance économique. Et rendre les gens plus pauvres, ça ne permet pas la relance économique.
En revanche, ça va faire sortir des gens des statistiques du chômage, parce que ces gens-là vont aller au RSA. Donc effectivement, ça va pas grossir le nombre de chômeurs indemnisés. Je rappelle qu'il y a il y a 40%, je crois que c'est même 37% des gens qui sont au chômage qui touchent des indemnités. C'est-à-dire qu'il y en a une grande majorité qui ne touche rien. Qui ne touche rien.
Dominique est avec nous au 32-16.
Comment font les autres pays? Puisque nous, on est tous.
Si tu vas,
j'entends les mêmes discours partout. On va rien tenter.
J'ai oublié de donner un exemple.
Très rapidement, parce que Dominique, je viens d'annoncer et il nous attend.
En Belgique, il y a le chômage à vie. Et ben, le taux de chômage est un peu plus faible qu'en France. Donc, comme quoi, avoir des conditions d'indemnisation confortables ne décourage pas forcément à travailler.
Mais les salaires sont indexés sur l'inflation également en Belgique. Mais il y a d'autres problèmes en Belgique.
Mais en tout cas, ça montre que ça n'est absolument pas correct.
Dominique est avec nous. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre, Dominique. Vous nous appelez d'où ?
De la région toulousaine. Je suis dans la campagne toulousaine.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie, Dominique ?
Ben, jusqu'à 2021, j'étais un commercial cadre sur un très long parcours.
Donc salarié ?
Salarié, oui.
Et aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, en fin de droit, je m'improvise auto-entrepreneur dans l'immobilier. Je viens d'avoir 61 ans et la sanction a été dure puisque j'ai été licencié après le Covid. Enfin, on était encore dans l'effet Covid à 58 ans. Et je peux témoigner parce que j'ai jamais eu de difficultés auparavant pour rebondir. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai démarré très tôt et j'ai eu la chance de prendre de l'amplitude dans les années 80, de travailler pour de très très belles entreprises. J'ai travaillé sur plusieurs marchés. Et à 58 ans, tout s'est arrêté. Alors quand je dis tout s'est arrêté, j'ai été entretenu. J'ai été très souvent entretenu. J'ai pu même être 16 fois finaliste. Finaliste, vous savez que c'est la dernière phase avant éventuellement. Voilà. Et ça s'arrête brutalement parce que bon, le concours, enfin, on vous le dit pas clairement, on vous l'écrit surtout pas parce qu'ils ont trop peur de la discrimination du senior. Moi, j'avais l'intention d'attaquer personne, mais je peux vous témoigner que moi, 58 ans, sorti du Covid, il y a eu les effets du conflit en Ukraine après qui s'est enchaîné, donc ça a entraîné une certaine fébrilité sur certains marchés du commerce. Mais en tout cas, ça s'est l'éventualité d'être engagé en revoyant très nettement à la baisse la copie. Il n'était pas question que je sois exigeant sur les salaires que j'ai pu percevoir auparavant.
Et là, ça fait combien de temps que, si vous les percevez encore, je pense que c'est plus le cas, mais si vous êtes en fin de droit, et ça fait combien de temps que vous... Ça fait combien de temps, pardon ?
En fin de droit, moi c'est depuis le début de l'année, février. Vous percevez, ça s'enchaîne parce qu'autrement vous n'avez plus de couverture sociale.
Vous percevez des indemnités chômage depuis combien de temps?
Ah, je les ai malheureusement 3 ans. Chose qui est pour moi est quand même compliquée. Je les ai perçus et heureusement, merci. Mais c'est dur quand vous avez bossé. Moi, j'ai démarré en 1980, vous voyez. Alors la perversité du système, en plus, fait que quand vous avez démarré de bonne heure, vous vous dites bon, c'est pas ce que j'ai choisi, mais je vais peut-être saisir l'option de la retraite, puisque vous pouvez. Il faut savoir que quand vous atteignez un an de chômage, vous perdez votre longue carrière. C'est-à-dire que vous avez vos trimestres. Mais l'échéance de la retraite à laquelle vous auriez pu partir, parce que finalement les circonstances auraient été celles qui auraient pu convenir, non, on décale.
Et alors, Macron, quand,
oui.
Quand vous voyez, vous lisez, vous nous écoutez aussi, vous nous regardez, lorsque vous voyez que le gouvernement, là, actuellement, est arc-bouté sur l'objectif du plein emploi, il faut qu'on arrive à 5% de taux de chômage en France, lorsque, j'ai regardé, ça remonte à 2018, vous savez, vous vous souvenez de cet échange d'Emmanuel Macron avec un jeune qui cherchait du travail, c'est 2018 où il lui disait, bah, voilà, c'est la fameuse, moi je traverse la rue et je vous en trouve du travail. Il l'a pas dit qu'une fois d'ailleurs. Lorsque vous sentez que le gouvernement veut sévir à l'égard des demandeurs d'emploi, en tout cas de durcir les conditions d'obtention des droits, comment vous réagissez ?
Et moi, quand quelqu'un a l'intention de prendre des mesures, ça veut dire qu'il a mis en place tout un processus qui fait que ça va permettre aux gens de rebondir. Le problème, déjà, on peut pas mettre tout le monde dans la même catégorie, les âges, les professions, enfin, ainsi de suite. Mais la mesure de l'État me fait penser à un dicton de Coluche. Dites-moi ce dont vous avez besoin, on va vous expliquer comment vous en passez. En fait, concernant les seniors, le marché du senior pour grand nombre d'activités, je vais vous dire, quand on est senior, on peut rebondir dans l'audiovisuel, le journalisme, le haut encadrement, la recherche et les ingénieurs. Et bien sûr, les politiques qui ne sont jamais remis en question puisqu'ils y rebondissent toujours. Mais pour d'autres activités, vous devenez un dinosaure. Même si vous avez une belle carrière, que vous donnez le change, ainsi de suite, il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient prêts à m'engager, mais dans le processus de décision, à un moment donné, on leur a dit... Certains se formalisent, s'en excusent. J'ai même des consultants, deux consultants, qui en étaient désolés, parce qu'ils croyaient à mon embauche.
Attendez, moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans tout ça. Qu'est-ce que...
Daniel.
C'est quoi le problème, en fait ? Vous voudriez quoi pour les seniors ? Qu'une loi oblige au recrutement des seniors à un certain quota dans l'entreprise ou un allongement. Est-ce que, honnêtement, pour l'employeur, ça changerait quelque chose d'allonger la durée d'indemnisation du senior? Si on faisait imagine on fait un cas particulier. Pour passer 55 ans au lieu de 12 mois, on te dit t'as 24 mois. L'employeur n'en a rien assuré, lui.
C'est pas ça le problème.
Il va pas l'embaucher pour autant.
Ce n'est pas ça. Le problème, il est qu'aujourd'hui, tu es devant un employeur qui te dit, je ne vais pas. Moi, on me l'a dit, donc je peux te le répéter. On m'a dit, je vais pas vous l'écrire, mais je ne vais pas vous faire entrer dans les effectifs de mon entreprise alors que vous avez 58 ans, sinon je vais être obligé de vous garder jusqu'à plus de 70 si vous ne voulez pas partir. Et donc, je lui ai dit, mais faites-moi un CDD. Il m'a dit, ah mais non, c'est un CDI, le poste, donc je peux pas en faire un CDD. Donc, le CDD senior, c'est-à-dire permettre, ce qui était d'ailleurs dans les tuyaux, qui a été refusé par les partenaires sociaux, c'était de permettre aux gens, aux entreprises, d'empocher les seniors jusqu'à ce qu'ils atteignent leur retraite et après ils partaient. Ça, c'était vachement bien.
Mais pourquoi on a dévié spécifiquement sur les seniors? Le débat global aujourd'hui, c'est pas ça.
Parce que l'emploi des seniors est un problème aujourd'hui en France.
J'entends ce que tu dis.
Le débat global de la durée, Daniel. Honnêtement, ce qui est visé par la mesure, par la réforme, c'est exactement ce que décrivait Rémi tout à l'heure. C'est le fait qu'on jongle avec les durées, c'est-à-dire que je prends un emploi 6 mois, je m'arrête. Et on sait très bien que c'est une tendance. On peut pas nier que c'est une tendance. Bon, bah, ok. Bah, alors, tout le monde nie que c'est une tendance.
Je pose une dernière question.
Je vois des têtes qui se secouent dans tous les sens. Très bien. Donc, en fait, le gouvernement, qu'ils aient été de droite ou de gauche, sont toujours butés contre ça. Ils ne font que buter sur le fait qu'on refuse d'aller vers l'emploi. On a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues en permanence. On sait que c'est un problème récurrent dans notre société, mais ça n'existe pas. Bon, ben, ça n'existe pas.
Non, mais on a déjà réduit.
Thierry, stop. Et en même temps, je suis en train de me dire,
Des impôts pour tout le monde.
Thierry, si ça ne concerne que peu de monde, ça ne touchera que peu de monde. On fait cette réforme.
Voilà, exactement.
Non, parce que ça aura des incidences, justement.
Anne-Sophie, je te donne la parole dans un instant. D'abord, merci. Un peu de calme. Je remercie Dominique d'avoir été avec nous. Dominique, tout ce qu'on vous souhaite, c'est bon courage et puis bonne chance pour votre reconversion, puisque voilà.
Je m'y attelle, je suis entrepreneur et voilà. Bon, écoutez,
on vous souhaite le meilleur, Dominique. Merci d'avoir été avec nous au 32-16. Et je le disais tout à l'heure, Erwan Tizon nous rejoint. Bonjour, Erwan Tizon.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes économiste, Erwan Tizon. Est-ce que c'est vrai, tiens, je vous posais la question directement, que les chômeurs, qu'on entend parfois, c'est devenu une litanie, qui jouent un peu sur leurs droits, c'est-à-dire qu'ils vont travailler 6 mois, vont s'arrêter 3, vont travailler 4, vont s'arrêter 9. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde, ça?
Alors, Ça porte un nom, ça s'appelle la permittence. C'était effectivement un sport dont beaucoup de professions étaient professionnelles, hein. Mais ça a été mis fin avec les différentes réformes, notamment de 2018 et 2019, qui ont allongé largement les durées d'indemnisation, en tout cas de travail pour être indemnisé. Et du coup, on observe qu'il y a quand même une tendance à la baisse sur ce genre de profil-là. Merci. Après, il existe un résidu, si vous voulez, de personnes qui continuent, un résidu statistique de personnes qui continuent à profiter du système, entre guillemets, qui est de 7%. La DARES, le service de statistique du ministère du Travail, estime que 7% des demandeurs d'emploi aujourd'hui sont dans une optique justement de profiter du système. Ça veut dire que 93%...
Donc c'est un problème qu'on a réglé, qu'il fallait régler, c'est bien.
C'est un problème qu'on a commencé à régler, mais le problème réellement du chômage aujourd'hui, c'est pas une question de durée d'indemnisation, c'est une question de formation. Vous avez une chose très simple, le taux de chômage des personnes qui sont diplômées d'un bac plus 5, il est environ de 3%. Le taux de chômage des personnes qui n'ont pas le bac est environ de 17%. Vous avez, comme vous le rappelez un de vos intervenants juste avant, à peine un chômeur sur deux qui est indemnisé. Donc, le fait de toucher aux indemnités directement, ça ne jouera pas du tout un rôle incitatif si vous n'êtes déjà pas indemnisé.
Alors, pourquoi, alors, rien n'est arrêté, mais pourquoi le gouvernement, il l'a déjà fait plusieurs fois, là, c'est une des hypothèses, pourquoi le gouvernement toucherait-il une nouvelle fois à la durée d'indemnisation? C'est quoi l'objectif?
On va être clair, le seul but de cette nouvelle réforme, c'est faire des économies.
Absolument.
Bien sûr.
La seule incitation qui pourrait jouer justement pour améliorer le taux de retour à l'emploi, c'est la formation notamment des personnes qui sont non qualifiées. C'est la seule chose qui, c'est documenté dans la littérature économique, c'est la seule chose qui permettrait d'atteindre le plein emploi. Là, cette réforme-là, elle est uniquement faite pour gagner les quelques centaines de millions d'euros qu'on a besoin pour boucler le budget 2025 et c'est tout.
Ouais.
Bon, oui, parce qu'aujourd'hui, le régime du chômage, il est excédentaire d'un milliard d'euros, donc c'est une manne. Et oui, par ailleurs, il y a un autre point que je trouve intéressant,
c'est la question de
la croissance. Comment peut-on imaginer que le chômage va baisser si la croissance ralentit? Donc c'est un moment, il faut jouer là-dessus aussi.
Tout à fait.
Erwan Tison, une autre question, mais parce que je sais que les situations sont différentes d'un pays à un autre, c'est difficile de comparer d'autres pays, mais comment expliquer que le taux de chômage en Europe est de 6,5, nous on est à 7,5, comment expliquer que l'Allemagne est arrivé à 3,1% de taux de chômage, la Grande-Bretagne est à 4%. Pourquoi nous, on n'y arrive pas?
Bon, et après, les situations sont différentes. En Grande-Bretagne, par exemple, vous avez une assurance chômage qui est forfaitaire, vous avez le droit à 90 euros par semaine, quel que soit votre ancien revenu. Donc là, ça vous incite à prendre n'importe quel type d'emploi. C'est peut-être un peu trop drastique. L'Allemagne a réalisé ce qu'on appelait les lois Hartz en 2005. C'est d'ailleurs ça qui a offert quasiment 20 ans de prospérité économique à l'Allemagne, qui, en fait, ont largement flexibilisé le marché du travail, ont durci les conditions, on va dire, d'indemnisation, mais de notre côté, ont accompagné les demandeurs d'emploi, notamment par de la formation.
Vous parlez de formation, Erwan Tison. Attends, Daniel, on vous parlez de formation, Erwan Tison. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Malgré tout, là aujourd'hui, on peut en parler tout à l'heure, et je sais que dans l'hôtellerie-restauration, il y a plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont à pourvoir. Est-ce que c'est le seul problème, la formation?
C'est la formation déjà des salariés, mais aussi des managers. Aujourd'hui, la plupart des managers, notamment dans la restauration, ne sont pas formés pour gérer leurs équipes et éviter de faire en sorte qu'ils aient des coupures. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Vous avez certains restaurants, notamment dans l'Est de la France, à Strasbourg, qui ont suivi des managers, qui ont suivi des formations pour mieux manager leurs équipes et mieux adapter les plannings aux demandes de leurs collaborateurs. Et ben, il se trouve que maintenant, les personnes sont à 5 jours par semaine, mais 5 jours durables, et surtout n'ont plus de coupures temporaires, n'ont plus de coupures journalières. Et la plupart du temps, ces restaurants-là croulent sous les CV. Donc il y a la formation des salariés, il y a aussi la formation des managers qui est très défaillante en France. Et ça, c'est un point sur lequel on doit absolument appuyer, notamment pour adapter un peu mieux les structures économiques aux demandes des salariés.
Merci Erwan Tison d'avoir été avec nous. Erwan Tison, économiste. On va continuer sur ce sujet, mais parce que vous êtes très 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 nombreux à nous appeler là devant moi. J'ai Romaric, Alexandra, Alexandre, Sébastien qui nous attend au 32-16. Il y a également de très nombreux, j'imagine, nombreuses réactions sur Direct Studio.
Oui, ça défile. Notamment, je lis juste un message de Pierre. Rapidement. Pierre, arrêtons de taper sur les chômeurs. Le problème, ce sont les entreprises qui ne sont plus assez attractives.
On continue de parler de ce sujet. Trop de chômeurs. Faut-il encore réduire leurs droits? Vous nous appelez au 32-16. Et puis, cette action menée par des féministes au centre Pompidou Metz qui ont tagué des tableaux. On en parlera dans les immanquables tout à l'heure. On continue de parler du chômage en France et du retour hypothétique au plein emploi. Vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Tiens, Alexandra est avec nous. Alexandra?
Oui, bonjour.
Bonjour Alexandra, bonjour. Je vous redonne la parole dans un instant. Avant de partir, je vous pose la question, est-ce que on durcit les droits pour les chômeurs, les règles pour les chômeurs, oui, non?
Oui, plutôt.
Bon, vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, c'est de midi à 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. On continue de parler du chômage en France, de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'arriver, de parvenir au plein emploi avant la fin du quinquennat. Le plein emploi, c'est simple, c'est 5%. Il y a toujours un taux de chômage résiduel, mais on estime qu'on est en plein emploi à 5%. Et en France, on est à 7,5%. La moyenne européenne, c'est 6,5%. Et donc, en ce moment, il y a une réflexion au ministère du Travail. On réfléchit à comment y parvenir, et dans les possibilités évoquées, il y a un durcissement des droits pour les chômeurs. On vous pose cette question. Trop de chômeurs encore en France, faut-il encore réduire leurs droits? Vous nous appelez au 3216 et donc Alexandra est avec nous. Rebonjour Alexandra.
Oui, rebonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Alexandra, vous nous appelez d'où?
Merci, moi je vous appelle de la région parisienne. Je
D'accord.
suis chef d'entreprise commerçante dans le textile.
Et juste avant la pause, je vous ai posé la question, est-ce qu'il faut réduire les droits des chômeurs à nouveau? Vous m'avez répondu plutôt oui.
Oui, je constate aujourd'hui que ça va faire 2 ans qu'on essaye de recruter des gens, on a des postes à pourvoir. Je suis une franchise d'une grande enseigne de textile, leader sur son marché. Mmh. Et en fait, on n'arrive pas à stabiliser nos équipes. On a des personnes qui se présentent au poste, ça c'est pas un problème. Des candidats, on en a plein.
Donc des postes de vendeurs, de vendeurs textiles.
De conseillers de vente, oui, tout à fait. Conseillers de vente en textile. Mmh. Et pour lesquels on a forcément des candidats qui se présentent. Et ensuite, une fois qu'ils ont leur contrat, donc ils sont embauchés, que ce soit en période d'essai ou pas d'ailleurs, cela devient une vraie catastrophe puisqu'on a un taux d'absentéisme sur le samedi qui est de 1 sur 2, donc 50% de l'effectif qui ne vient pas. Parce que
le samedi, c'est le jour le plus important, j'imagine.
Le plus important, exactement.
1 sur 2 ?
Oui, mais c'est aussi le week-end.
Exactement. Pareil pour le mercredi. Le mercredi, on a du mal à ce qu'ils viennent travailler parce que, je ne sais pas, le mercredi... c'est le jour des enfants, donc on ne vient pas travailler.
Et donc, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces salariés?
Ah, c'est souvent. Alors, le mercredi, ça va être des arrêts de travail d'une journée. Donc, on ne vient pas travailler parce qu'on a une gastro, parce qu'on a de la fièvre, parce qu'on tousse, parce que voilà. Donc, comme aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de justifier votre arrêt de travail pour 48 heures, et c'est pas grave, il est en absence non justifiée. Et pour le samedi, c'est exactement la même chose. Et on vous appelle le matin pour le jour même. On vous dit qu'on ne viendra pas. Donc, forcément, face à ces recrutements-là, nous, on ne garde pas les gens. Donc, on est en permanence en train de chercher du personnel qui a envie de travailler et qui a envie de s'investir.
Mais donc, sur le terrain, on entend tout le temps ce genre de témoignages, mais à l'arrivée, on sort toujours une tonne de statistiques et d'enquêtes qui disent que c'est la minorité, que ça ne veut rien dire ce que dit cette dame.
Ouais, c'est pas...
Moi, je sais pas, je comprends pas. C'est des témoignages qu'on entend en permanence.
Mais Alexandra.
Oui, et mon expérience, c'est que quand même, l'enseigne, aujourd'hui, elle a plus de 300 points de vente en France, et qu'on est tous pareils. C'est-à-dire que les 300 magasins aujourd'hui peinent à recruter des gens, et c'est vraiment un phénomène.
Mais Alexandra, Alexandra, ça s'explique comment? Allez, on va regarder aussi de l'autre côté de la lorgnette, j'allais dire, mais ces salariés, est-ce que les conditions salariales sont pas terribles? Alors,
Moi, j'essaye de faire en sorte, en effet, que... Alors, je ne peux pas embaucher au-dessus du SMIC quand les gens n'ont pas été formés, puisqu'il faut que je les forme. Donc, on essaye, en tout cas, d'avoir une politique salariale qui soit la plus juste possible. Et même aujourd'hui, quand vous faites un effort sur le salaire, parce que j'ai fait cet effort-là, même quand vous faites un effort sur le salaire et que vous recrutez la personne en lui donnant plus que ce qu'elle mérite, parce qu'il faut lui apprendre le métier. Elle est juste sortie de l'école, elle a un bac plus 2 ou un bac plus 3, vous dites « Ok, je vais la payer au prix. »
C'est-à-dire combien? Combien, Alexandre?
1800 euros net, brut, excusez-moi, 1800 euros brut, sans les autres avantages. Après, il y a les tickets resto, la mutuelle, etc.
Mais pour 35 heures par semaine?
Oui, voilà. Avec le dimanche de fermer, parce que nous, on ne travaille pas le dimanche, quand même. Donc, on est dans le commerce, mais on est fermé le dimanche. Et donc, quand vous êtes face à ça, ces personnes-là même décident de ne se mettre en arrêt de travail alors que c'est des jeunes. J'ai mal au dos, je suis fatiguée, je vais me reposer, puis je reviendrai travailler la semaine d'après. Donc en fait, c'est des arrêts de travail que ces gens-là vont positionner. Donc vous avez beau payer plus cher, ça ne change rien. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a même un recrutement qui est en train de se mettre à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plutôt des seniors en disant que ces gens-là, ils ont peut-être plus envie de travailler que des gens qui ont entre 20 et 35 ans.
Est-ce que vous, ça fait combien de temps que vous travaillez sans indiscrétion, Alexandra, dans ce domaine ?
15 ans.
15 ans ?
Oui, et c'est vraiment là, depuis le début, depuis la sortie du Covid, qu'on a vraiment une difficulté à recruter et à stabiliser. Et ensuite, on a vraiment des gens qui réfléchissent avec les aides sociales. Et c'est sûr que quand en face, ils ont le salaire, mais que s'ils touchent un peu moins grâce aux aides sociales, ils vont pas payer d'impôts, ils vont avoir l'indemnité scolaire, ils vont avoir les aides pour partir en vacances, ils vont avoir la prime de Noël. Et ben en fait, quand ils font le calcul de tout ça, au final, il vaut mieux qu'ils touchent un peu moins, voire qu'ils soient en effet indemnisés par le chômage et qu'ils aient juste travaillé 6 mois pour relancer leurs droits 24 mois. Donc oui, je suis favorable parce que ça a un coût aussi pour chaque salarié. Aujourd'hui, chaque salarié qui travaille, il paye cette cotisation au chômage. Et plus on a de chômeurs, plus cette cotisation au
Et pour les dirigeants d'entreprise, c'est un enfer.
Moi,
c'est pas moi qui perçois cet argent-là. C'est l'URSSAF. Donc c'est pour redistribuer aux gens. Moi, c'est surtout mon salarié. Il a un salaire brut et un salaire net. Et l'écart aujourd'hui entre le net et le brut, il ne va pas dans ma poche.
Mais je parle d'en faire aussi, parce que j'imagine pour l'organisation dans un magasin, c'est infernal. Quoi.
Oui, par contre, pour nous, en termes de quotidien, c'est devenu très compliqué. Et vous savez quoi, on est tous en train de se dire, à un moment donné, on va réduire l'amplitude des horaires. Comme ça, on sera avec des effectifs plus petits, mais avec des gens qui ont envie de travailler. Parce qu'en effet, pour nous, c'est un enfer au quotidien. Oui, et pour les gens qui restent.
Anne-Sophie, tu voulais réagir.
Oui, alors moi je vois pas bien qu'à l'aide sociale touche des jeunes sortis d'école après bac plus 2 ou 3, parce qu'en fait souvent en dessous de 25 ans on touche pas le RSA. Par ailleurs, pour qu'ils touchent le chômage, faut qu'ils travaillent au moins 6 mois et le chômage ce sera équivalent à 60 alors je sais j'ai plus les chiffres en tête, mais une partie seulement du salaire qu'ils touchaient s'ils l'ont touché pendant 6 mois. Donc c'est quand même assez faible, c'est beaucoup plus intéressant de travailler.
Mais Alexandra, elle invente pas ce qu'elle raconte, elle est pas elle
s'appelle ici, elle n'appelle pas pour absolument pas dit qu'elle l'inventait. Je dis simplement que aujourd'hui en dessous de 25 ans, on n'a pas le RSA et que pour toucher le chômage, il faut travailler 6 mois dans les 2 ans et que le chômage, ce sera moins intéressant qu'un salaire.
Il faut pas penser que c'est intéressant d'être au chômage. Il y a cette réalité, celle d'Alexandra, et Daniel avait raison tout à l'heure, lorsqu'on a eu de très nombreux chefs d'entreprise, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, qui nous appelaient, et on le sait, il y a eu un rattrapage. Les responsables syndicaux de l'hôtellerie-restauration l'admettent eux-mêmes, ils ont fait n'importe quoi. Il y a eu des comportements irresponsables pendant des années, qui fait que voilà, le métier a été... Attends, je termine, Daniel. Il y a un certain nombre de personnes ont déserté le métier. Ils ont fait un rattrapage salarial plus 13%. C'était juste un rattrapage. Maintenant, il y a des salaires corrects, c'est ce qu'ils disent. On sait qu'ils ont fait attention aux coupures, que maintenant, il y a des week-ends. Et malgré tout, ils ne trouvent toujours personne. Alexandra, elle est dans un autre domaine, le textile. Je peux témoigner aussi. Moi, j'ai autour de moi des gens qui travaillent dans l'animation, etc. Cet été, on ne trouve pas de jeunes pour les centres aérés, pour les colonies de vacances.
Et t'emmènes 90% d'une classe d'âge au bac. Donc derrière, la formation pour ce genre de métier, elle n'existe pas, puisque tout le monde pense qu'ils vont faire des études supérieures pour devenir président de la République. Donc ensuite, est-ce qu'on pourra dire un jour quand même la couleur politique de la grande majorité des économistes et des enquêteurs qui se penchent sur la question ou qui viennent sur les plateaux télé? On pourra également peut-être un jour penser à dire ça, ce qui donne en gros à l'arrivée le témoignage que Alexandra elle ment, que ses enquêtes n'existent pas, que c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain, qu'il y a pas de gens qui jonglent avec le système et qui en profitent. Mais c'est pas que les jeunes qui peuvent profiter, parce que de la même façon, le salarié qui a un bon salaire cadre et qui a 50 ans, tu vois, je peux me mettre dedans par exemple, un truc comme ça, je négocie mon départ, rupture conventionnelle avec un très beau chèque. Et l'indemnisation, j'en profite pendant hyper longtemps pour me
reposer, partir en vacances. Un an et demi, t'en profiteras pendant un an et demi.
Eh ben c'est trop.
Alexandra, merci Alexandra. Merci à Alexandra d'avoir été avec nous. Alexandra qui nous appelait depuis la région parisienne. Alfred.
Oui, juste pour remettre un peu de contexte sur des données là chiffrées de l'INSEE de l'année dernière, sur les indemnisations moyennes chez les hommes, c'est de 1 130 €, 890 euros pour les femmes, donc les indemnisations au chômage, voilà, c'est pas non plus la panacée.
Seulement 37% des
Oui, sur ouais. les chômeurs, personnes indemnisées, parce qu'une majorité ne l'est pas.
Absolument. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Rémi.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Alexandre, vous nous appelez depuis la Seine-Maritime, c'est ça ?
Exactement.
Vous faites quoi dans la vie, Alexandre ?
Alors, jusqu'à mardi dernier, je vendais des matelas, j'installais de la literie, en fait. J'installais de la literie.
Donc, commercial dans le domaine de la literie, jusqu'à mardi dernier. Pourquoi jusqu'à mardi dernier?
Parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans un magasin qui a fait faillite suite à des mauvaises décisions de gestion, etc.
Ok.
Et du coup, qui a donc terminé son activité au 30 avril dernier.
D'accord. Donc là, vous allez bientôt être en demandeur d'emploi.
Exactement.
Vous avez quel âge, Alexandre?
28 ans.
D'accord. C'est la première fois que ça vous arrive ou pas?
Alors, c'est la première fois que je me retrouve licencié d'un emploi en CDI, en tout cas, parce que j'avais déjà eu des périodes de chômage avant.
Ah oui. Ouais, vous étiez en CDI.
Parce que c'était des CDD qui suivaient des CDD, quoi.
Okay.
Depuis que je suis en CDI, ouais, certaines fois.
Ok. Comment vous vous sentez?
Un peu désemparé face à la situation. J'avoue que ce sujet tombe à pic pour moi parce que j'ai eu un rendez-vous ce matin avec la personne qui s'occupe de la liquidation judiciaire du point de vente où je travaillais, où en fait on nous apprend que on a beau avoir travaillé, etc., qu'on n'est pas responsable de cette faillite, que on aura 57% brut de notre salaire. Et ça fait un peu ça fout un peu les boules, quoi, de se dire qu'on a mis un petit peu, on s'est donné. Pour une entreprise qui a pas tenu.
Ça faisait combien de temps que vous travailliez dans cette entreprise?
3 ans.
3 ans, ouais, c'est pas. Ok, et ouais, et on imagine que c'est psychologiquement compliqué. Alexandre, malgré tout, je sais pas, dans le domaine, vous avez bon espoir de retrouver rapidement?
Dans l'ameublement, c'est compliqué ces derniers
temps. Ouais, l'ameublement, c'est sûr.
On le sait. Ouais. Après, moi, je ne veux pas me cantonner. J'accepterai de faire à peu près n'importe quel travail. Le chômage, c'est pas quelque chose qui va me convenir. Et quand j'entends que on a des chômeurs qui veulent jongler à droite, à gauche pour essayer de profiter, je me retrouve pas vraiment là-dedans.
Et est-ce que vous comprenez, même si encore une fois, je l'ai déjà dit, mais rien n'est arrêté, mais est-ce que vous comprenez en tout cas les tours de vis successifs que donne le gouvernement à l'égard du droit des chômeurs?
J'ai un peu de mal à le comprendre dans le sens où pour moi, si les allocations chômage sont des allocations pour lesquelles on a cotisé. Et il faudrait peut-être aller regarder un petit peu ailleurs. Après, je comprends évidemment qu'il y a des abus. Mmh. Et malheureusement, il y a beaucoup de chômeurs qui n'ont pas choisi leur situation.
Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Bon courage à vous, bonne chance pour la suite, parce que c'est une situation qui n'est jamais évidente de toute façon, ça c'est certain. Alexandre qui nous appelait au 32-16 très rapidement. Romaric nous rejoint. Bonjour Romaric.
Oui, bonjour.
On est dans le Val d'Oise, c'est ça?
Exactement, à Montmorency.
D'accord, vous faites quoi dans la vie, Romaric?
Alors, je suis boucher.
D'accord. Ah là aussi, on manque de monde. On manque de bras.
Exactement. Alors, en fait, moi, je vais vous expliquer, parce que c'est mettre des tours de vis et tout, je peux comprendre. Après, quand on travaille pendant X années, par exemple, je vais dire 5 ans, et encore se faire réduire le chômage, je trouve ça un petit peu exagéré. Mais quelqu'un, effectivement, qui travaille 8, 10 mois, qui s'arrête pendant 6 mois, qui revient qui est sur le monde du travail, là, effectivement, c'est un peu se moquer de la société. Moi, mon cas, c'est que je devais monter mon entreprise au 1er mars de cette année, et j'ai arrêté le 31 janvier chez mon patron. D'accord. Après ça, on a été refusé en rendez-vous bancaire à cause des bilans comptables de l'entreprise existante, donc pas de notre fait. Nous, notre dossier tient la route, etc. Donc, une fois qu'on s'est refusé, on doit forcément rester au chômage, parce que je vais vous expliquer très simplement, tout est fait pour que nous, on retourne pas au travail. On retourne dans la recherche d'entreprise, mais tout est fait pour qu'on ne retourne pas au travail. Par exemple, là, je suis en allocation chômage. Je vais monter mon entreprise au mois de septembre. Ça va être acté. J'ai rendez-vous, etc. Et en fait, si on signe un CDD dans un emploi, parce que on est quand même pris par le temps quand on est en recherche d'entreprise. Donc, je signe un CDD. Tout se passe bien. Le patron me propose un CDI. Je n'ai pas le droit de le refuser. Parce que si je le refuse, je perds mes allocations chômage. Et donc, je perds toute mon année, ma première année en entreprise, d'allocations chômage qui me permet de faire la trésorerie de ma société.
Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression de marcher sur la tête.
Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, ce système. Donc, effectivement, je suis pour qu'il régule tout ça. Mais en fait, c'est presque du cas par cas, parce qu'il y a des gens qui abusent, mais il y a des gens qui en ont réellement besoin. Aujourd'hui, pour monter une entreprise en France, avec toute l'imposition qu'il y a sur les sociétés, vous êtes obligé de passer par ça. Vous n'avez pas le choix.
Merci Romaric d'avoir été avec nous. Romaric qui nous appelait depuis le Val d'Oise. On vous a posé la question, vous avez été très nombreux à réagir. Il y avait aussi Sébastien qui nous attendait au 32-16. Mais on aura l'occasion évidemment de reparler du sujet. On vous a posé donc la question, trop de chômeurs, faut-il encore réduire leurs droits? La réponse.
Eh bien, vous répondez non à 64%, oui à 36%. Un dernier message de Nicolas qui dit: les droits au chômage sont une assurance, nous cotisons pour cette assurance. Je veux bien que les droits baissent, mais à ce moment-là, les cotisations aussi.
Ah oui, bah, oui, ça évidemment qu'il faudrait que ce soit ça, bien sûr.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Anthony qui va nous parler des soldats high-tech à l'allure, mais alors vraiment de super-héros. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Il est 12h51, on est un peu en retard, mais il est là quand même, il a bien voulu venir. C'est Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Soldat Morel au rapport. Bonjour Anthony. Bonjour. Toi, on va voir la façon dont l'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde de la guerre. Le soldat de demain sera augmenté grâce à la technologie et se transformera en une sorte de super-héros. Alors, pas forcément un héros
en tout cas,
il
aura des super-pouvoirs.
Il aura l'allure.
C'est un peu ça. C'est-à-dire ne jamais rater sa cible, voir à travers les murs, être protégé par un bouclier presque magique. C'est pas de la folie là, dont je vous parle. C'est des choses qui existent aujourd'hui, qui sont pour certaines en phase d'expérimentation, pour d'autres qui sont déjà déployés sur les champs de bataille. Quelques exemples très concrets. Quand je vous disais qu'il n'allait jamais rater sa cible, c'est un viseur intelligent qui s'appelle le Smart Shooter, qui est déjà utilisé, qui permet en fait de transformer n'importe quel soldat en tireur d'élite. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardes dans ce viseur, tu vas pouvoir verrouiller une cible. Alors typiquement, un drone, ça fonctionne hyper bien sur les drones, 250 mètres du sol au-dessus de toi, donc autant te dire que tu vois quasiment rien. Tu vois un point noir. Tu regardes
donc
dans cette lunette
de visée. Quand tu veux détruire un drone.
Exactement. Tu vises. Et en fait, l'intelligence artificielle va suivre ce petit point noir au millimètre près, et elle va te dire à la seconde près le moment où il faut appuyer sur la détente, et tu vas réussir et toucher ta cible à tous les coups. Ouais. C'est très spectaculaire. Deuxième innovation, je vous disais, voir à travers les murs. Ça aussi, c'est des caméras intelligentes qui embarquent de l'intelligence artificielle, donc qui sont capables de voir à travers le ciment, les briques ou le béton. Alors, de voir pas exactement. Ouais, je t'assure. Alors, en fait, elles détectent des silhouettes, mais plus que des silhouettes. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un homme, un animal, un enfant? Est-ce qu'il est en position couchée? Debout, assise. Et donc, dans des missions de sauvetage, de renseignement, évidemment, c'est des choses qui vont être extrêmement précieuses. Troisième chose, ce sont les robots. Alors, on va commencer avec les robots compagnons intelligents qui vont accompagner les soldats sur le terrain. Il y a un projet de l'armée française qui s'appelle le projet Vulcain, qui veut intégrer des robots avec les hommes d'ici 2040 sur les champs de bataille. Alors, ça peut être des mules qui pourront accompagner les soldats. On les voit là, par exemple, qui testent le robot chien Spot de Boston Dynamics, qui est testé par l'armée française. Ça peut être des robots boucliers qui vont se déployer pour protéger les fantassins, et puis d'autres qui peuvent être équipés d'armes, évidemment. Alors, pour l'instant, il y a quand même une décision humaine pour décider de tirer ou pas, quoi.
Bon, c'est là qu'on arrive sur un des points qui fait débat. Quand l'évolution de la technologie va permettre à ces robots, justement, de devenir complètement autonomes, et de prendre des décisions eux-mêmes. Le robot repère sa cible, il tire tout seul.
C'est Terminator. Hein.
Alors c'est ça, c'est ce qu'on appelle, le terme marketing, c'est les robots tueurs. Mais le terme technique, c'est les SALA, on appelle ça. Donc c'est les systèmes d'armes létaux autonomes. Je sais que tu connais très bien le sujet. On parle en fait du mariage entre les armes et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elles sont capables de verrouiller une cible de manière autonome et de prendre la décision en fonction de paramètres informatiques qui ont été choisis à l'avance, de tirer ou de ne pas tirer. Ça prend des formes diverses et variées. On en voit quelques-unes. Ça peut être des tourelles intelligentes, ça peut être des tanks autonomes, ça peut être des drones avec des systèmes parfois de reconnaissance faciale. Et là, forcément, on arrive sur des sujets qui dépassent le simple point de vue technologique. C'est-à-dire, c'est des questions évidemment éthiques. Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on peut autoriser ce genre de choses? Alors, il y a des normes qui sont en train d'être mises en place. Il y a eu une conférence de l'ONU, une résolution de l'ONU qui a été votée il y a quelques mois, qui vise à demander aux États, inciter les États, en tout cas, à limiter l'évolution de ces technologies et leur développement. Mais bon, il suffit qu'il y ait quelques États, évidemment, qui ne veuillent pas le faire pour que tout le monde le fasse, en définitive. C'est ça qui est un peu compliqué, quoi.
Et la France dans tout ça?
Alors, la France, ne développe pas, à ma connaissance, de robots tueurs, mais il y a beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle. Notamment, je vous donne un dernier exemple concret. C'est un projet qui est en cours de développement sur de l'analyse automatisée de l'acoustique. On va écouter tout ce qui se passe sous l'eau pour détecter si c'est une plateforme sous-marine ou si c'est un sous-marin ennemi. C'est les fameuses oreilles d'or de la marine nationale qu'on voit dans le champ du loup. Eh bien, ça pourrait être accompagner, pas remplacer, mais augmenter grâce à l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup, Anthony. On se retrouve demain. Dans un instant, coup de klaxon, queue de poisson, insulte ou menace les automobilistes français. De plus en plus agressifs, sommes-nous tous devenus des sauvages au volant? Oui, non, vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant, dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.